la plus extrême. Le blanc du drapeau, une enquête immersive en BD, signée Julie Scheibling et Clara Chaudy.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h40 TU, sur RFI.
Il est 6h30 en temps universel, même heure à Bamako, vous êtes sur RFI. Lors d'un nouveau journal de l'actualité africaine avec vous, Edouard Dupénoit.
Et cette édition qui commence au Mali avec le rapport annuel du collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad. Il a compilé plus de 550 personnes tuées l'année dernière dans le centre et dans le nord du pays, en accusant principalement les FAMA et les mercenaires russes. Au Sénégal, marmite solidaire face aux portes closes des restos universitaires. Le campus de l'UCAD était plus calme hier, mais les étudiants n'entendent pas abandonner leurs revendications boursières.
On parle de l'eau dans votre journal, celle qui déferle sur le Maroc, celle que le Burkina ne parvient pas à se faire payer.
Les pluies dantesques sur le royaume chérifien d'une part, est-ce qu'elles représentent une bonne nouvelle agricole après 7 années de sécheresse? Les climatologues sont modérément optimistes. Et puis le Burkina, l'office de l'eau, excédé par les factures impayées, la brigade Lahabal pourrait être amenée à contraindre les mauvais payeurs. Le dossier de cette édition retourne aux sources et on parle cette fois de peinture. Nous sommes à l'école de Potopoto au Congo-Brazzaville. Elle expose les pionniers qui ont contribué à bâtir sa renommée.
Un nouvel éclairage sur les violations des droits humains dans le nord et le centre du Mali.
C'est donc le collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad qui diffuse en effet son rapport annuel, 70 pages qui énumère l'ensemble des exactions commises contre les populations civiles. Principaux accusés dans ces violations, l'armée malienne et ses supplétifs russes. Guillaume Thibault, 553 personnes tuées dans le nord et le centre du Mali en 2025.
Principal point d'inquiétude pour le collectif, l'intensification des violences contre les populations. Lieu, nature des exactions, bilan, en tout 374 incidents sont détaillés dans ce rapport. Par exemple, les enlèvements par les FAMA et leurs partenaires russes de 23 personnes en mai 2025 au marché au bétail de Diafarabé dans la zone de Mopti. Les corps égorgés ont été retrouvés dans une fosse commune. Le collectif pointe aussi une hausse des attaques de drones, comme à Beidi près de Gossi en octobre dernier, 22 personnes tuées lors d'un mariage et 18 morts lors d'une autre frappe en mars à la foire d'Adjer près de Tombouctou. Autre fait dénoncer les attaques contre des convois, comme sur l'axe entre Gao et la frontière algérienne en février 2025, où 40 personnes voyageant dans 4 véhicules ont été tuées. Le collectif, qui liste aussi des actes de torture et 7 viols, interpelle la communauté internationale, appelle à des enquêtes indépendantes et demande la cessation immédiate des attaques contre les civils.
Guillaume Thibault, la journée d'hier, bien plus calme que la veille sur le campus Dakaroua de l'université Cheikh Diop, mais les étudiants qui promettent de se remobiliser dès demain. La fin de la semaine a été marquée par de vives tensions sur plusieurs campus sénégalais, l'UCAD donc, mais aussi les facultés de Saint-Louis ou encore de Thiès. Les restaurants universitaires y sont fermés. Des étudiants qui déplorent les retards dans les versements de bourses ont voulu y prendre des repas sans payer en signe de protestation. Notre correspondante s'est rendue hier sur le campus de l'UCAD, plus calme et où la solidarité alimentaire s'organise.
Les traces des affrontements de la veille sont encore visibles. Pneus brûlés, pavés et pierres jonchent le sol. Le calme est revenu, mais l'urgence est ailleurs. Trouver de quoi manger. Pape Laminsen, étudiant en marketing.
C'est une situation déplorable. À mesure que le niveau de vie des étudiants est un peu délicat, la majeure partie des étudiants ne perçoit pas leur bourse. C'est un peu compliqué pour les étudiants de se restaurer et de pouvoir acheter en dehors de l'université.
Le restaurant universitaire permet normalement aux étudiants de prendre 3 repas par jour pour 250 francs CFA. Moins de 40 centimes d'euros. Sur la pelouse du campus social, des étudiants préparent des marmites de riz au poisson pendant que des groupes de jeunes patientent. Les présidents d'Amicale ont pris le relais. Baye Biteye est président de l'Amicale de la faculté d'économie-gestion.
Chacun va donner 100 000 francs CFA. Comme ça, ça fera peut-être 700 voire 1 million de francs. Certes, c'est minime par rapport au nombre qui est là, mais on essaie de débrouiller avec les moyens du bord. On fait des coups de jachon pour essayer de voir comment on va faire pour faire donner aux étudiants quelque chose.
Au cœur du conflit, le retard dans le versement des bourses. Les aménagements proposés par la direction ne convainquent pas. Certains étudiants envisagent de rentrer chez eux si la situation perdure.
Ici, on ne peut pas vivre sans les restaurants. Si la situation se continue ainsi, nous allons quitter l'université et faire autre chose quand même.
Le Centre des œuvres universitaires de Dakar affirme que les restaurants resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants annoncent une reprise de la mobilisation dès lundi. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le Maroc face à des pluies diluviennes et des inondations, avec des interrogations aussi pour les mois qui viennent.
Vous l'avez peut-être entendu cette semaine sur nos antennes. Près de 150 000 personnes ont été évacuées dans le nord du royaume. Essentiellement d'ailleurs à titre préventif, des mesures de vigilance et de coordination renforcées par ailleurs autour des fleuves Loukos et Sebou. Et donc, ces questions. Après une sécheresse qui durait depuis 2019 et qui a porté des coups très durs, notamment à la production agricole, ces pluies, malgré leurs dégâts, peuvent-elles être la promesse enfin d'une année normale ? Méfiance, nous répond le climatologue Mohamed Anchan, la partie n'est pas encore gagnée. Il enseigne à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah.
Cette année de sécheresse, c'est quand même quelque chose qui est pesant au niveau des ressources en eau. Mais la situation de cette année, quand même, elle a permis de rendre les choses un peu à la normale. Mais on est toujours menacé par une sécheresse, hein, parce que on a encore la période du printemps et on ne sait pas comment ça va être la situation météorologique. Quand même, les pluies qui ont tombé cette année, elles ont permis quand même à remplir les barrages, les cours d'eau et les nappes phréatiques, parce qu'il n'y a pas uniquement la pluie. On a reçu encore des précipitations neigeuses et contribuent quand même à augmenter les ressources en eau. On est un petit peu sorti de cette situation de sécheresse qu'on a connue ces 7 dernières années, mais il y a quand même les impacts de ces pluies extrêmes sur l'agriculture. On n'a pas la sécheresse, les terres agricoles se sont inondées, parce que l'agriculture au Maroc, c'est sur les plaines. Pratiquement la plupart des plaines atlantiques sont inondées. Ça pourrait produire des dégâts au niveau des terres agricoles.
Le professeur climatologue Mohamed Anchan, propos recueillis par Pauline Glaise du service environnement. De l'eau, encore celle que l'office public du Burkina Faso ne parvient pas à se faire payer. On parle là de l'ONEA, Office National de l'Eau et de l'Assainissement. Il a fait ses comptes. Ses débiteurs lui doivent un total de 35 milliards de francs CFA, plus de 53 millions d'euros. Des factures impayées face auxquelles les autorités sont prêtes désormais à employer les grands moyens. Elles ont donné aux mauvais payeurs une semaine de délai. Après quoi, la brigade mixte Lahabal, composée de forces de défense et de sécurité, entrera en piste pour rappeler tout le monde à l'ordre, Clotilde Hazard.
Les factures impayées d'eau, d'assainissement et de travaux réalisés atteignent près de 35 milliards de francs CFA. Pour Idrissa Sourabier, le directeur général de l'ONEA, le niveau des créances a atteint un seuil critique et cette situation fragilise la trésorerie, ralentit les investissements et menace à terme la continuité et la qualité du service public d'approvisionnement en eau potable, a-t-il expliqué. La brigade Lahabal est donc appelée à la rescousse pour aider à la sensibilisation des citoyens et au recouvrement de la dette. Le message est clair. Les particuliers et les entreprises sont appelés à se mettre à jour et à payer leurs factures d'eau dans un délai d'une semaine. Le commandant de la brigade Lahabal, le lieutenant Franck-Octave Cabré, prévient que passé ce délai, ils seront naturellement réquisitionnés. Ils vont contribuer d'une autre manière à construire le pays et payer leurs factures, ajoute-t-il. Dans un communiqué, l'ONEA précise que cette opération cible prioritairement les gros débiteurs et les créances pour lesquelles les moyens conventionnels ne permettent pas d'avoir des résultats probants.
Clotilde Hazard pour ses précisions.
Les Nations Unies parviennent, dans la douleur, à relancer leurs négociations sur un traité contraignant contre le plastique.
Le Chilien Julio Cordano a été difficilement élu hier à Genève après de longues tractations. Il a la lourde tâche de relancer les discussions autour d'un possible texte qui obligerait le monde à s'engager contre ce fléau du plastique, fléau qui touche la planète entière, mais dont les populations n'attendent pas l'ONU pour se retrousser les manches. Ainsi, en Côte d'Ivoire, sur les berges de la lagune Ébrier qui borde Abidjan, le Zion Kingdom Festival cette année ne propose pas que du reggae. Entre deux concerts, bénévoles et festivaliers sont allés ramasser les déchets qui s'amoncellent. Reportage Abdoul Aziz Diallo.
Munis de gants, de râteaux, de pelles et de sacs poubelles, des bénévoles descendent sur les berges pour une vaste opération de nettoyage. Ils débarrassent les abords de la lagune des déchets accumulés au fil du temps. Même la portion de la lagune longeant la paroisse du quartier Blocos n'a pas été épargnée par la pollution, constate le père Olivier Okoun.
Ceux qui avaient accès à cet endroit participent à la pollution en jetant des objets plastiques. Juste après le repas, le reste de la nourriture, des bouteilles d'eau et autres, tout cela, ça contribue à polluer l'environnement.
Une fois collectés, les déchets sont triés en vue d'un éventuel recyclage. À travers l'initiative Stop Plastique, les organisateurs entendent surtout interpeller les Abidjanais sur la nécessité de préserver la lagune Évrier. Johanna Ocon, initiatrice du festival Abidjan Zion Kingdom.
Commençons, c'est le message fort, et puis montrons qu'on est capable de ramasser des déchets, de prendre soin de cette lagune, d'en profiter après, une fois qu'elle est propre, et de véhiculer ce message qu'on arrête de prendre cette lagune pour une poubelle.
Ces déchets qui s'accumulent sur le long des berges représentent de sérieux risques sanitaires pour les populations riveraines, alerte l'environnementaliste Adama Thio.
La prolifération des bactéries pathogènes qui peuvent induire des maladies telles que le palu, la prolifération des moustiques, le choléra, la fièvre typhoïde et d'autres pathologies liées à la dégradation de la qualité de l'eau.
L'opération de nettoyage s'est poursuivie sur la lagune à travers une course de pirogue remportée par l'équipe ayant collecté le plus de déchets. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
À Brazzaville expose les fleurons et les pionniers de son art pictural. Vous nous y emmenez pour le dossier de ce journal.
On parle de l'école de peinture de Poto-Poto, la plus connue, emblématique, représentative des peintres congolais. Elle a vu débuter des artistes comme Pili Pili Moulongoy ou encore Marcel Goten. Et elle expose en ce moment les premières générations, les premières toiles des artistes qui sont passés sur ces bancs dans les années 50. Retour aux sources que notre correspondant Loïcia Martial est allé visiter.
Dans le hall, les tableaux sont alignés sur trois rangées. Myriam Boyer, conseillère au ministère de la Culture, nous guide à travers les œuvres.
Alors cette exposition, elle montre les collections du Musée national. Ce musée, il est fermé depuis 1977 et il conserve des véritables trésors. On a fait le choix dans cette exposition de se focaliser sur la peinture et une peinture un peu spéciale, celle qui a été faite par des peintres qui appartenaient à l'école de peinture de Poto-Poto.
L'on peut y voir sur un tableau dessiné par Marcel Goten, montrant les premiers hommes ou encore le masque Ibo de Philippe Ibarra Ouassa, sans oublier les Mickey. Premier style dessiné par les élèves de l'école de peinture de Poto-Poto, formé dans les années 50-60. Myriam Boyer poursuit la visite.
On a mis ici côte à côte deux tableaux. L'un qui est une œuvre de Nicolas Ondongo qui s'appelle Les guerriers en lutte, et une autre d'un autre artiste qui fait partie de l'école de peinture de Poto-Poto, donc Francis Iloki. Deux tableaux permettent d'illustrer les caractéristiques les plus connues de cette école de peinture de Poto-Poto, à savoir le style. Eh bien, on a le style qu'on a appelé les Mickey.
Ces œuvres ont été réalisées entre 1960 et 1990. Trois quarts de siècle après sa création, l'école de peinture de Poto-Poto est considérée comme le fleuron de la culture congolaise. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Quelle est la valeur des œuvres exposées en ce moment? En quoi ont-elles été fondatrices ou bien novatrices? Qu'est-ce qu'elles ont apporté à la culture congolaise et aux peintres de l'école de Poto-Poto? Autant de questions que l'on pose à Parfum Bon, directeur de cette école de peinture.
C'est les œuvres qui ont été réalisées par les premières générations de l'école de peinture de Poto-Poto. Alors ces œuvres-là étaient conservées au musée national depuis plusieurs années, mais pas dans des conditions tout à fait optimales. Quelques décennies après, ce sont les œuvres qui sont abîmées. Alors, donc avec le concours de financiers techniques, l'Institut français, et ces œuvres ont été restaurées. C'est des œuvres qui traitent de sujets divers. C'est un travail de qualité qui a été produit par des experts qui nous satisfait entièrement. Mais c'est une école qui a contribué à la promotion de la culture congolaise. Bon, elle est connue par son style particulier qu'on appelle le style Mickey. Mais au-delà du style Mickey, puisque la culture est dynamique, alors il y a eu un autre style. Ils appellent ça le style des aplats. Les aplats, c'est né de noir. Voilà, donc quand on dit au-delà du style Mickey, alors les acteurs de Poto-Poto ont été à la fois des conservateurs, puisqu'ils ont conservé le style initial, et ils ont été des innovateurs pour avoir produit de nouveaux styles.
Cette exposition sur les pionniers de l'école de Poto-Poto à voir jusqu'au 13 février prochain, le temps de quelques secondes de sport. Enfin, parce qu'on joue aujourd'hui les dernières rencontres de la cinquième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions de football. Trois matchs aujourd'hui, le Saint-Éloi Loupopo face au Mamelodi Sundowns, le Stade Malien qui reçoit l'Espérance de Tunis, et puis le Rivers United ce soir face aux Pyramids. Toute l'actu sport revient dans une heure avec Antoine Grenier. Pour l'heure, on vous retrouve Pierre Boudias.
Et à tout à l'heure, Édouard Dupénoit. Merci à vous. 6h43 en temps universel. Et cette question, la vague pro-Trump en Amérique centrale va-t-elle profiter à Taïwan. C'est en tout cas ce qu'espère l'île dissidente chinoise après l'élection confirmée de Nasri Asfura au Honduras. Car si sa prédécesseur avait tourné le dos à Taipei en 2023 au profit de Pékin, le nouveau chef de l'État, soutenu par le locataire de la Maison Blanche, a de nombreuses fois fait savoir sa proximité avec Taïwan. Le gouvernement taïwanais espère donc capitaliser sur cela et espère un rétablissement des relations diplomatiques avec le Honduras. Rencontre à Taipei ce matin, la capitale, avec les membres de la communauté hondurienne installée à Taïwan avant la rupture des liens diplomatiques entre les deux pays. Une communauté pas forcément emballée par cette perspective. Reportage de Jules Bois.
Aldo Balsamo vit depuis 5 ans à Taïwan. Arrivé sur l'île grâce à une bourse d'études offerte par le gouvernement taïwanais, il a décidé de poursuivre ses études malgré la rupture diplomatique entre le Honduras et Taïwan en 2023.
Si je devais donner un pourcentage, je dirais entre 70 et 80% de chances que le président rétablisse une relation avec Taïwan. Mais il y a toujours la possibilité que la Chine le séduise avec un accord, ce qu'ils ont souvent fait dans la région.
Une possibilité qu'il n'envisage pas sereinement.
I love Taiwan.
J'aime Taïwan, mais l'idée que nous puissions arrêter de reconnaître la Chine au profit de Taïwan me fait un peu peur. Je sens qu'il y a de bonnes chances que la Chine puisse riposter contre le Honduras. Chez nous, tout est chinois de nos jours. C'est assez effrayant.
Si Aldo a pu rester à Taïwan malgré l'arrêt de sa bourse d'études, c'est en partie grâce au soutien de la communauté hondurienne menée par Fernando Ramos. Avocat et journaliste, il est à Taïwan depuis plus de 10 ans et une figure très active de la petite communauté hondurienne sur l'île.
Économiquement, c'était désastreux pour nous. L'industrie de la crevette est morte, le nombre de bourses d'études a été réduit, nous n'avons vu aucun bénéfice pour le café ou quelques produits agricoles que ce soit. De l'autre côté, nous avions Taïwan qui offrait 3 fois plus de bourses d'études, achetait 40% de notre production de crevettes. Je ne vois pas de raison qui indiquerait pourquoi le gouvernement hondurien devrait rester avec la Chine.
Pour lui, les raisons de rétablir une relation diplomatique avec Taïwan seraient donc économiques, mais aussi politiques, voire idéologiques.
Je pense que Nasri Asfura doit beaucoup à Trump pour son élection et qu'il fera ce que Trump veut. Ni les Honduriens, ni le gouvernement du Honduras ne se laisseront convaincre par de simples promesses chinoises.
Si revirement il y a, ce serait une défaite diplomatique difficile à encaisser pour la Chine dans un contexte politique régional tendu, comme le rappelle Florencia Huang, universitaire taïwanaise spécialiste de l'Amérique.
La Chine n'accorde peut-être pas beaucoup d'importance au Honduras, mais nous devons également tenir compte du fait que la Chine se trouve actuellement dans une situation très difficile en raison du cas Maduro au Venezuela. Donc si la Chine souhaite conserver son influence dans ce moment critique, elle tentera de ne pas perdre un autre allié en Amérique centrale. Elle va donc sûrement essayer de négocier et de tenir ses promesses faites en 2023.
Depuis le début des années 2000, 9 pays d'Amérique centrale et des Caraïbes ont reconnu la Chine au détriment de Taïwan. Parmi eux, aucun n'est revenu sur sa décision. Jules Bois, Taipei, RFI.
RFI, il est 7h47 ici à Paris. L'actualité de ce dimanche 8 février 2026. C'est la Thaïlande qui a commencé à voter ce matin pour des législatives anticipées. L'opposition part favorite dans ce scrutin qui mobilise 53 millions d'électeurs. Mais les analystes jugent peu probable qu'elle remporte la majorité absolue, anticipant des négociations post-électorales sur la recherche d'une alliance. Les réformistes du Parti du Peuple risquent donc fort de se voir barrer la route par une entente entre conservateurs et populistes. Élection aussi au Portugal. Le socialiste António José Seguro est le grand favori du second tour de la présidentielle qui l'oppose à André Ventura, le dirigeant d'un parti d'extrême droite. La campagne a été perturbée par les tempêtes meurtrières qui ont balayé le pays ces 2 dernières semaines, poussant au moins 14 circonscriptions à reporter le scrutin d'une semaine. Le Portugal, nous y serons dans le journal de 8h, heure de Paris. Et puis en France, justement, Jacques Lang a finalement présenté sa démission de la présidence de l'Institut du Monde Arabe à Paris après l'ouverture d'une enquête judiciaire en France pour blanchiment de fraude fiscale aggravée pour ses liens supposés avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Si aucune charge ne pèse à ce stade contre lui, les documents rendus publics mentionnent son nom à 673 reprises. C'est votre nouveau rendez-vous chaque dimanche sur la Radio du Monde depuis la semaine dernière. RFI s'invite dans les réseaux sociaux de 7 jeunes âgés de 15 à 25 ans, de jeunes collaborateurs qui nous ouvrent les portes de leur TikTok, Instagram et autres Snapchat pour nous faire découvrir ce qui leur parle et nous aider à mieux comprendre cette génération. Ce matin, nous allons en France avec Lola pour parler jeux de rôle. En ligne, c'est une chronique signée Anna Le Serre.
Salut à toutes et à tous et bienvenue à la Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le générique de la Bonne Auberge, un jeu de rôle en ligne français qui a plus de 40 000 followers sur Twitch. Cette plateforme de streaming très appréciée des passionnés de jeux vidéo. Lola me fait découvrir cet univers.
Bah, c'est vraiment une partie de jeu, donc tout peut se passer. Enfin, il suffit qu'il y ait un mauvais jet de dés et ça change toute l'histoire.
31 points de dommage. Très bien. Alors que l'énergie est aspirée.
Et comme moi je joue au jeu de rôle, bah, j'aime bien voir d'autres gens y jouer.
4 à 6 joueurs autour d'une table. Au centre, un maître du jeu raconte l'histoire.
Il y a un vieux majordome qui est dans le public, mais je ne vais pas l'appeler. Il s'appelle Frédéric von Grostein qui arrive. Il est vieux, il a les cheveux blancs et une barbe blanche. Et il a une tenue de majordome et il dit « Les enfants, que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous voulez des bonbons ?»
Est-ce qu'on balance le mot de passe?
On veut rentrer nature, dans la soirée.
Vous voulez rentrer dans la soirée? Mm-hmm.
Les joueurs incarnent des personnages, parlent à leur place, lancent des dés et tout se passe à l'oral avec beaucoup d'imagination et de suspense.
Quoi? Non!
On scrolle sur le fil de Lola et elle me montre plein de contenus liés à cet univers. L'algorithme, nourri par ses likes, ses recherches et le temps passé sur certains posts, a bien cerné son profil.
C'est beaucoup de vidéos courtes, des répliques entre les personnages qui sont très drôles généralement, ou des moments d'émotion au contraire. Je pense notamment à Critical Role qui est un Actual Play aux États-Unis.
Petite pause ici. Actual Play, ça veut dire jeu de rôle en anglais. Et donc, Critical Role, c'est un jeu de rôle qui a plus d'1 400 000 followers. On retrouve Lola.
Où il y a un couple qui est marié depuis très longtemps, qui se retrouve à jouer ensemble autour de la même table. Du coup, ils refont leurs vœux en live devant tout le monde, mais chacun déguisé en leur personnage.
This moment is the best adventure I've ever had.
Et du coup, il y a des trucs comme ça, mais c'est trop marrant, enfin, fallait le faire, quoi, fallait y penser. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment dingues avec le jeu de rôle et qui vont construire dans leur maison une pièce totalement dédiée au jeu de rôle. Attends, faut que je te montre ça, c'est trop fort.
Dans cette vidéo, on est aux États-Unis dans un pavillon type classe moyenne. Une femme descend au sous-sol de sa maison et découvre toute une pièce customisée en taverne médiévale avec écran, table de jeu et fausse pierre au mur. La totale.
Go away, you're gonna be mad.
No, you told me to come down here.
Go away, you're gonna be mad.
No, come down here. Let me see. Oh my god.
Vous l'avez compris, pour Lola, l'univers du jeu de rôle, c'est avant tout une manière de mettre le quotidien sur pause. Elle aime ce monde où l'imaginaire prend le dessus.
Par rapport à d'autres contenus, plus lifestyle, développement personnel, qui te mettent grave la pression à plein d'endroits, où moi, ça va m'interroger sur mes fonctionnements, mon hygiène de vie ou tout ça. Et tandis que là, c'est vraiment des interactions entre des joueurs et des joueuses, des blagues, et que j'ai du contenu qui s'étale sur 4 années, des épisodes de 2 heures en moyenne. Donc j'ai eu le temps de juste me mettre dans ma bulle et profiter de ce contenu-là, quoi.
On retrouve bientôt Lola dans Y'a quoi sur tes réseaux. En attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Et à la semaine prochaine, Anna Le Serre, pour Y'a quoi dans tes réseaux, votre nouveau rendez-vous dominical sur RFI, 6h52 en temps universel. Nous vous en parlons ce matin dans nos journaux sur RFI. L'Éthiopie fait de nouveau face au spectre de la guerre. La région du Tigré, secouée par de nouvelles tensions, voit des milliers de personnes être victimes de déplacements internes. Des violences endémiques dans le pays qui ont déjà provoqué le départ de 350 000 personnes en 2025, selon le dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations. Un exode en hausse de 24% sur un an et qui ne cesse de s'amplifier et qui est devenu le terrain de l'imagination de l'artiste peintre Solomon Chifero. Avec ses œuvres, le jeune homme de 28 ans souhaite alerter sur la dangerosité de ces routes migratoires, notamment en direction de l'Europe. Marlène Panara l'a rencontré à Addis Abeba.
Solomon Chifero a installé son studio en plein cœur du quartier de Hayat, derrière une lourde porte en métal. Sur les murs, des toiles d'un bleu profond attirent l'œil, la couleur de la mer Méditerranée que traversent chaque année des dizaines de milliers de candidats à l'exil, dont des Éthiopiens, au péril de leur vie. Un phénomène qui a inspiré au jeune artiste ses premières œuvres.
J'étais étudiant en deuxième année quand j'ai eu l'idée de travailler sur la migration, après qu'un de mes amis a tenté de traverser la mer depuis la Libye vers l'Italie. Mais le bateau a coulé avec tous les passagers à l'intérieur. Certains sont morts. Après les funérailles de mon ami, j'ai beaucoup pensé à ce qui était arrivé et je me suis dit que je devais utiliser ce que je ressentais dans mon travail.
À sa sortie de l'université d'Addis Abeba, le jeune artiste se met au travail. En quelques mois, ses pinceaux donnent naissance à des dizaines de tableaux. L'une des toiles que le jeune homme déroule à même le sol dépeint un naufrage. Des corps de personnes portant un gilet de sauvetage orange se perdent au milieu des flots.
Tout le monde pense de manière certaine, et je ne sais pas pourquoi, avoir une meilleure vie après avoir pris cette route. Les gens croient que c'est leur seule option. Là où j'ai grandi, beaucoup de jeunes partent, des personnes qui, après avoir eu leur diplôme, n'ont pas d'opportunité. Alors partir devient l'unique solution.
Avec son art, Solomon Chifero veut alerter la jeunesse sur les dangers des routes migratoires. Si la route de l'Est menant dans les pays du Golfe est la plus empruntée par les Éthiopiens, beaucoup s'engagent aussi sur la voie dite du Nord, direction l'Europe via la Libye.
Le phénomène est de plus en plus important. Quand les exilés sont en Libye, les trafiquants demandent de l'argent à leur famille pour les libérer. Et ils postent ça sur les réseaux sociaux. Avant, on ne le savait pas. C'est un vrai problème. Beaucoup de gens ont perdu des proches, moi y compris.
L'exil via la Méditerranée centrale est la route migratoire maritime la plus meurtrière au monde. En 2025, d'après l'OIM, 1340 personnes y ont perdu la vie. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
Le reportage Afrique de RFI Matin est à retrouver sur notre site internet et sur toutes les applications de podcast. Allez, partons maintenant à la découverte d'un métier de l'ombre qui s'expose pourtant en pleine lumière lors de tous les grands événements. Le placement des lumières lors d'un concert, c'est eux. L'arrangement des espaces dans une exposition, c'est encore eux. Ce sont les scénographes spécialisés dans la mise en scène d'espaces. Ils sont largement méconnus, mais pourtant indispensables. Cécile Degosse est l'une d'entre elles. Elle a notamment imaginé la scénographie de l'exposition Georges Condo au musée d'art moderne de Paris. Exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 15 février, la semaine prochaine donc. Elle conçoit des espaces qui invitent à la découverte en guidant le regard sans contrainte. Maria Afonso l'a rencontrée pour 100% création.
Je regarde des images, que ce soit dans les livres, dans la rue, des détails, je prends photo et mon cerveau devient une banque d'images.
Cécile Degosse, scénographe.
Il faut avoir fait une école d'art ou une école d'architecture. Ensuite, c'est plus la géométrie dans l'espace, les couleurs, la lumière, du graphisme qui interfère. Il faut être très motivé, enfin avoir un œil et être intéressé par l'esthétique, ça c'est sûr.
Née à Paris, Cécile Degosse aurait pu suivre une voie en économie, mais sa passion pour le dessin, la sculpture et la photographie l'a conduite à passer le concours des arts décoratifs en même temps que son baccalauréat. En 1997, elle intègre l'école et la spécialisation en scénographie pour théâtre et opéra. Depuis plus de 20 ans, Cécile Degosse joue avec la scénographie. Elle organise, équilibre, harmonise l'espace pour donner vie à ses idées. Chaque nouvelle aventure comporte ses contraintes, ses enjeux culturels et techniques.
Je ne souhaite pas me spécialiser dans la mode ou dans le contemporain ou dans le hallmaster. Ce qui m'intéresse, justement, c'est tous ces ponts. Le hallmaster peut me servir pour l'art contemporain et à l'inverse, l'art contemporain me sert aussi pour exposer des pièces anciennes et donc d'apporter un regard différent. Donc vous, en tant que scénographe, vous devez récupérer le maximum d'informations de la part des commissaires, traduire leurs propos scientifiques en espace et vérifier si toutes les œuvres rentrent dans le budget.
Cécile Degosse travaille en équipe, dialogue avec les artistes, commissaires et artisans. Et pour elle, c'est ce qui rend chaque projet unique et enrichissant.
C'est vrai qu'un artiste vivant peut faire peur. J'aime beaucoup le dialogue. On a à peu près le même langage, la couleur, le volume, l'espace. Je pense que le parcours, en étant passé par les arts décoratifs, aide beaucoup à tout cet échange humain avec un artiste. La même journée, je peux parler sur mon chantier à toute mon équipe et aux plus grands collectionneurs. Donc en fait, il faut être tout terrain, tout le monde à sa place. Et sans un des maillons, vous ne faites pas l'expo. Il y en a beaucoup. Les commissaires, la régie des œuvres, l'éclairagiste, le graphiste, les menuisiers, les peintres, les électriciens. Il y a le socleur, tous les agents de sécurité. Quand on fait un montage d'exposition, chacun a son rôle. Dès qu'il y a une personne qui manque, ça bloque. Donc en fait, on est obligé de tous marcher dans le même sens.
Retrouvez tout l'univers de Cécile de Gauss en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, sur RFI Pure Radio et en images sur les réseaux sociaux.
Maria Afonso, le journal, dans une minute.
Quelle distance vous sépare des 49 journalistes actuellement détenus en Russie ? 30 000 ou 5 000 km ? Quelle distance vous sépare des dizaines de journalistes agressés en Serbie alors qu'ils couvraient des manifestations anti-gouvernement ? 10 000 ou 2 000 km ? Quelle distance vous sépare des campagnes de désinformation sur votre téléphone ? 0 cm. En 40 ans, la menace contre l'information n'a jamais été aussi proche de vous. Aidez-nous à défendre l'information fiable. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières. Se battre pour les faits.
Le prix découverte RFI.
Salut, c'est Hortense Vol
et DJ Facemaker.
Ça y est, on connaît les 10 finalistes du prix découverte RFI 2026.
Jusqu'au 11 mars, votez pour l'artiste que vous préférez. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par MC